Bienvenue dans le sixième épisode des Voix de Buenaventura, l'union fait la force. Je suis Pauline, chargée de projet pour l'association Agir Ensemble pour les droits humains, et je vous invite à partir avec moi à la découverte de l'engagement des activistes de Buenaventura. Dans les épisodes précédents, nous y avons rencontré des hommes, des femmes, des membres de communautés autochtones, des défenseurs et défenseuses des droits. Le portrait que je vous ai dressé de Buenaventura n'est pas très rose. Pour autant, il existe des manières de l'embellir qui passent notamment par la mobilisation personnelle et collective, car l'union fait la force. Des activistes à Buenaventura, il y en a plus que ce que l'on peut imaginer entre ceux et celles qui ne se considèrent pas activistes et ceux et celles qui ne le rendent pas public. J'ai le plaisir de vous en faire rencontrer de nouveaux et nouvelles, mais aussi de retrouver certains et certaines que vous connaissez déjà si jamais vous avez écouté les épisodes précédents, et que je vous présenterai au fur et à mesure. Il s'agit d'Amparo, une leader sociale qui lutte pour mettre fin à l'exploitation forestière, aux mines illégales et aux déplacements forcés, d'Alejandro, membre de la communauté autochtone Ipu et Uja, d'Esther, une travailleuse sociale. Il y aura aussi Janet, Maria Karina, Lina et Washington. Je vous présenterai également Daniel Jiménez, responsable plaidoyer à la Red Eulat, un réseau de 40 organisations européennes qui promeut des politiques participatives en faveur des droits humains en Amérique latine. Et Carlos Duran, anthropologue colombien, consultant et chercheur spécialisé dans les thématiques de femmes et de migration. Toute mobilisation débute par une bonne information. Commençons par écouter une recommandation d'Amparo, l'activiste que nous avons rencontré pendant le premier épisode de ce podcast. Elle défend les droits de sa communauté depuis près de 40 ans dans le sud du Bolivar. Sa recommandation s'adresse aux défenseurs et défenseuses des droits humains, au personnel d'organisation de la société civile, principalement celles et ceux qui ne viennent pas de Colombie.
Aidez-nous à rendre visible la réalité que vit la Colombie, à chercher des solutions. Et ne vous arrêtez pas juste à Bogota pour faire des inspections. N'allez pas dans les meilleurs hôtels de Cartagena. Allez dans les zones à risque. Et si vous souhaitez soutenir les associations des paysans, des femmes, des victimes du conflit armé, faites-les directement sur le terrain. Ne restez pas ou ne passez pas uniquement par Bogota.
En plus de s'informer en allant directement sur le terrain, il faut unir nos forces et inclure les jeunes dans nos luttes. Pour cela, ils doivent d'abord se former, pour pouvoir ensuite s'intégrer dans les processus de défense de leurs droits. Alejandro, second du gouverneur de la communauté Ipu et Uja, l'a remarqué du haut de ses 21 ans.
On nous amène dans un territoire où nous ne nous sentons pas à l'aise. On nous amène dans des zones urbaines où on voit que la culture a été affectée. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les jeunes soient formés. Nous voulons nous former pour être capables d'entreprendre des processus de mobilisation et que demain notre communauté soit encore là et plus organisée que jamais. Ce que les jeunes font ici, c'est apporter aux enfants et aux adultes ces connaissances qu'ils ont acquises sur comment faire face aux problèmes avec les forces de l'ordre et face aux groupes armés illégaux. Le rôle des jeunes, c'est tout ça.
Au niveau individuel, une femme peut choisir de se mobiliser pour la défense de ses droits en devenant elle-même porteuse de ce message, aussi bien dans ses actions que dans ses discours de sensibilisation. Janet, née dans le Chocó mais vivant à Buenaventura depuis ses 11 ans, est déplacée interne, c'est-à-dire au sein même, de Buenaventura. Étant elle-même une leader sociale, elle m'a partagé son expérience.
Dans ma communauté religieuse, je suis aussi des leaders. Donc cela m'a donné l'opportunité. Ça m'a donné plus de confiance, de sécurité, pour pouvoir m'ouvrir davantage et enseigner ce que j'avais appris avec l'accompagnement des organisations sociales, comment Taller Abierto. Parce que la question religieuse, c'est aussi quelque chose d'important, parce que dans beaucoup de croyances religieuses, on nous enseigne que l'homme est le chef et que la femme doit se soumettre à l'homme. C'est ça qui est dit la Bible. Ou c'est ça qui dit mon pasteur. Que les femmes doivent faire ce que les hommes veulent et que les femmes sont la propriété des hommes. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leurs femmes. Mais ce travail de sensibilisation avec Taller Abierto m'a permis qu'en tant que leader, je peux partager ce que j'ai appris et les sensibiliser à mon tour sur le fait que les femmes ne sont la propriété de personne.
Celles qui se prêtent au jeu de devenir de vraies leaders sociales courent des risques pour leur vie, et Janet le sait très bien.
En ce moment, je pense que très peu de femmes exercent leur rôle de leadership en tant que femmes, ni dans la sphère sociale, ni dans la communauté, ni dans les conseils communautaires ou des quartiers, parce qu'elles ne peuvent pas exercer leur rôle à cause des menaces. Nous, les femmes, on ne peut pas défendre notre quartier parce que sinon on nous menace ou on nous assassine. Ce sont des menaces telles que « arrête de dire ça sinon on te tue, on va découper ton fils » ou « tu dois quitter ta maison ». Si tu vas porter plainte auprès des bourreaux, des procureurs ou de la police en disant que des groupes entrent dans ton quartier pour recruter des jeunes, tout de suite, ces groupes vont chercher à savoir qui a dénoncé, qui les a balancés. Et cette personne sera déjà morte dans les prochaines heures. Car ici, l'intimité n'existe pas. Si tu déposes une plainte anonyme, en fait, ils savent déjà qui a appelé. Ton téléphone est branché sur un autre téléphone. C'est comme ça à Buenaventura. Les téléphones sont interceptés. Tu parles et tout le monde est au courant. Quoi que tu dises, les autres personnes le savent déjà. Et tu sais ce qui va t'arriver si tu parles. Tu dois te taire par peur pour protéger ta vie et celle de ta famille. Lorsqu'une personne va porter plainte, beaucoup de femmes se rétractent. Elles dénoncent, certes, mais ensuite vont retirer la plainte parce qu'elles sont aussi menacées et donc elles ont peur pour leur vie. Parfois, ils menacent leur mère, leurs membres de la famille, donc cette même peur leur fait retirer leur plainte. Et donc le travail est perdu, car même si elles connaissent leurs droits et ne peuvent pas le faire valoir par peur d'être tuées, ou qu'ils tuent leur mère, ou leur sœur, ou leur fils. C'est ça la peur à Buenaventura. Mais on aimerait que les actions de non-violence puissent être réalisées ouvertement et en toute liberté.
Dans ce contexte de peur pour leur propre vie ou pour la vie de leurs proches, le rôle des travailleuses sociales est pourtant fondamental. Elles permettent d'informer les futures potentielles victimes, elles les éduquent, les conscientisent et les responsabilisent. Elles font également ce travail avec les jeunes, ceux et celles qui auront un pouvoir de décision demain. Et c'est ce qu'a soulevé Washington, l'étudiant de 23 ans, né à Timbiquicauca, qui s'est déplacé vers Buenaventura en 2011 à cause du conflit armé sur son territoire.
En tant que travailleur social, je pense que les outils qu'on nous donne à l'université devraient être partagés aussi dans les communautés, pour qu'ils puissent contribuer aux besoins des habitants et continuer à nous renforcer.
Malheureusement, tous les jeunes informés ne peuvent pas s'investir en politique malgré leur sensibilité et motivation. C'est ce qu'a dénoncé Washington.
La politique, c'est un grand défi. C'est une sphère où il y a la possibilité de créer des espaces de participation et d'apprendre à les connaître. Les jeunes se mobilisent. Cela permet donc d'avoir de nombreux espaces où les gens sont parfois au centre. Mais en tant que jeunes, nous sommes parfois confrontés à un grand défi, celui justement de pouvoir intégrer ces espaces de participation et de prise de décision. Aujourd'hui, oui, nous avons gagné de l'espace, mais ce n'est pas été facile et nous sommes toujours dans la lutte pour exiger que nos droits soient respectés et qu'ils soient vraiment pris en compte. Et en plus, quand on est des jeunes des communautés rurales, nous avons plus de mal à nous rendre dans les zones urbaines, où la plupart des décisions sont prises. Nous sommes exclus aussi parce que l'information arrive en retard, parce qu'on est limité dans nos déplacements vers la zone urbaine et que les coûts de transport sont élevés, beaucoup plus que pour les jeunes des villes. Ici, nous sommes à Ville Estella, et si nous parlons de communautés comme la Estrella, rien que pour arriver jusqu'ici, le transport coûte 30 000 voire 40 000 pesos, entre 7 ou 9 euros. C'est beaucoup trop cher. Alors parfois, on est obligé de renoncer à participer car on n'a pas les moyens, on n'a pas les choix.
En mettant en place une formation politique et citoyenne au sein de Taller Abierto, en partenariat avec les institutions éducatives, Esther, jeune travailleuse sociale de 29 ans, apprécie la mobilisation sociale des Bonaventurines et Bonaventurins dès leur plus jeune âge.
Notre objectif et philosophie, c'est que plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Donc plus il y a d'impact. Par exemple, pour arrêter avec les pratiques de corruption qui ont été normalisées, l'école de formation politique et des citoyens mise en place pour l'organisation Taller Abierto a été très importante. Car les modules de formation sur la démocratie incluent les processus de construction et mobilisation de la communauté. Et quand on insiste sur le sujet avec les enfants dès le plus jeune âge, ça permet de générer une conscience citoyenne et de rendre ces valeurs quelque chose de naturel pour ne plus normaliser les mauvaises pratiques. Car ce sont les pratiques de corruption qu'on a vécues et qu'on continue à vivre ici à Buenaventura avec nos mères.
Esther accompagne également les jeunes à se détacher des attitudes de violence et d'agressivité dans leurs échanges.
Et c'est là qu'on intervient pour générer des cultures de paix. Car il y a des autres façons de résoudre les problèmes qu'on crée. Pourquoi ne pas se parler normalement? On réalise des ateliers avec des méthodologies pour les enfants à travers des jeux. C'est simple, mais c'est à travers de ces activités qu'on commence à travailler sur les questions. Il y a des façons d'interagir, utiliser des mots plus doux, se demander si l'autre personne a compris les messages qu'on voulait donner, comment a-t-il compris, comment elle arrive à un accord. Eh bien, ces espaces de formation sont animés par des jeux, des vidéos, des chansons. Les enfants peuvent s'exprimer ce qu'ils ressentent avec des exemples. C'est plus facile pour eux de s'exprimer avec des exemples concrets. Ça les aide à réfléchir, à analyser eux-mêmes les situations et à exprimer leurs ressentis. Ils se demandent par exemple si c'est déjà arrivé chez eux ou un autre enfant raconte son expérience. Et l'enseignante ou l'enseignante lui donne des conseils sur comment faire face à une situation. Et donc les enfants se questionnent. Ils se demandent si on fait des erreurs, si ils peuvent améliorer. C'est important pour nos enfants qui sont dans cette dynamique et dans ces contextes d'extrême violence, où les relations violentes sont normalisées. Nous sommes ici, dans la communauté 12 de Buenaventura, qui est actuellement très affectée par la violence et le terror. Avant, la violence était présente surtout dans les parties isolées, mais depuis, disons, 4-5 ans, on a vu des violences exploser ici.
En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, Esther n'hésite pas à mettre en avant leur mobilisation, leur engagement pour défendre leurs droits tout en renforçant leur confiance en elles et leurs connaissances.
Les femmes ont souvent été maltraitées, mais elles ont compris et ont cherché de nombreuses formes de résilience, de nombreuses façons de renforcer leur être et de guérir. Grâce à toutes les connaissances qu'elles ont acquises grâce à ces processus de formation, elles se sont aujourd'hui très autonomes. Elles se sentent tellement autonomes qu'elles voient la nécessité de reproduire ou d'inviter plus de femmes à participer à ces processus.
Les activités de cette organisation ont même eu des effets sur les bénéficiaires sans que les travailleuses sociales ne s'en rendent compte. Esther m'a justement partagé des souvenirs.
Il y a des femmes qui, avec un simple atelier, on peut identifier qu'il avait vécu la violence et décide de rompre avec cette violence. Parfois, elles ne nous disaient pas, mais après l'atelier, elles mettent fin à la relation abusive ou elles décident de déménager. Elles commencent à prendre des autres décisions. Elles sortent de leur timidité. Elles libèrent la parole. Elles s'expriment. Il y a des gens qui ont reçu aussi sortir de la violence et à dire non à ces schémas violents qui essayent de les séduire. Ils décident, malgré toutes les difficultés qui existent, de continuer à miser sur ces espaces d'échange et de mobilisation pour la non-violence.
Du côté des jeunes et des enfants bénéficiaires du projet Buenaventura, Maria Karina, une étudiante qui vit dans le quartier Vista Hermosa, un des plus violents de la ville par ailleurs, nous a présenté une pièce de théâtre accompagnée de ses camarades. Et à la suite de la représentation, elle m'a expliqué la morale bouleversante de l'histoire. Elle est basée sur des faits réels.
La pièce que nous avons présentée parlait d'une mère qui a pratiquement vendu sa fille. Elle envoyait ses prostituées et lui demandait d'aller au magasin pour séduire les hommes, pour qu'ils lui donnent de l'argent. Mais la fille, qui n'était qu'une enfant, était innocente. Il ne savait pas qu'à chaque fois qu'elle allait voir le commerçant, il essayait de la toucher pour coucher avec elle. Et elle trouvait toujours des excuses pour partir vite. Mais la mère n'était pas consciente des dommages physiques et psychologiques pour sa fille, parce qu'elle était aveuglée par l'argent. Ce sont des situations qui se produisent beaucoup ici à Buenaventura. Le viol des filles, et on oublie des fois la responsabilité des parents, des mères et des pères. Et donc, il est important de travailler avec eux sur ces sujets.
à côté des actions des bénéficiaires elles-mêmes, d'autres actions de plaidoyer sont également mises en place au niveau local, avec de nombreux organismes pour dénoncer les situations et sensibiliser le plus grand nombre. Esther a soulevé la pertinence de ces actions.
Les plaidoyers, c'est un très grand défi, surtout pour les organisations qui sont déjà saturées pour leurs activités. Mais il existe des espaces collectifs de plaidoyer, comme l'Observatoire de l'enfance à Buenaventura. Et l'Observatoire, c'est un espace très important et nous avons besoin qu'il soit renforcé et qu'il continue à agir dans les territoires. Il y a une organisation qui aide à l'intérieur de cette structure et qui a été un allié très important pour l'Observatoire. Et l'objectif de cet espace est de contrôler, faire un monitoring, récolter des informations sur le terrain, suivre des cas et rendre les cas visibles. La difficulté, c'est que l'Observatoire n'a pas pu construire des outils solides pour pouvoir réaliser cette surveillance et ces suivis. Nous avons essayé de construire cet outil depuis plusieurs années, mais parfois ils sont très techniques et très lourds. Et parfois, on ne collecte pas toute l'information. Ça peut être difficile pour les membres de se désapproprier. Aussi, l'organisation, avec tout le travail communautaire qu'elle a, n'a simplement pas le temps de faire ce travail et suivi de ces cas. Donc, c'est très limité. Une des propositions a été de chercher quelqu'un pour nous soutenir. Par exemple, nous avons cherché une personne qui nous aide avec la création d'un bulletin d'information. Ce qui semble simple, rapide, mais les organisations qui faisaient partie de ces espaces n'avaient pas le temps. Alors, grâce à un projet, on a réussi à trouver une aide et ça a été un soutien qui a été très important, mais nous avons besoin de ce soutien de façon continue. Avec la table ronde intersectorielle, c'est aussi un peu délicat parce que cette structure travaille surtout pour rendre visibles les actions et situations de violence envers les femmes. Et disons que dans cet espace, il y a un peu plus d'avancées que dans l'espace sur les droits des enfants, car il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dessus et la structure est beaucoup plus grande. Avec la plateforme des 13 bosses qui travaillent aussi pour les enfants et les jeunes, le travail des plaidoyers a été plus fort car il s'éloigne du local, il va plus au niveau national. Ce sont des organisations qui sont dans une dynamique plus active et qui travaillent toujours avec les enfants. Et c'est à partir de la voix des enfants que l'appel est fait au gouvernement national. Donc, nous sommes toujours dans cette co-construction. Actuellement, nous travaillons sur les rapports alternatifs, des rapports faits pour le gouvernement sur la situation des droits des enfants, où le gouvernement dit que tout va bien et que la Colombie se sort bien. Alors, nous, les organisations, on transmet notre rapport aussi où là on remet en question ce que le gouvernement dit et où on montre la situation réelle avec des données et des chiffres. Il est très important de renforcer les groupes qui sont déjà consolidés, de mettre l'accent sur la mobilisation sociale pour faire un plaidoyer ensemble et ainsi être plus efficace. Mais nous avons besoin que les gens se mobilisent plus pour être plus forts et plus entendus.
Effectivement, il y a toujours une volonté de voir les choses évoluer, et notamment en termes de plaidoyer. À Buenaventura, les réseaux de mobilisation sociale au niveau politique manquent, malgré les effets remarquables qu'ils pourraient avoir sur le quotidien des habitantes et des habitants. Janet m'a donné l'exemple des femmes de son quartier, la commune 12.
Les entreprises ne sont pas intéressées à ce que leurs femmes s'autonomisent, qu'elles s'occupent des postes dans différentes entités de travail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne soutiennent pas les femmes. En tant que femmes, nous sommes en train de lancer une campagne sur la non-violence et sur la prévention des grossesses non désirées. On a apporté une lettre à ces entreprises, mais cette lettre est juste restée dans les archives. Et donc on attend et ils ne nous appellent jamais. Mais avec nos groupes de femmes, on a besoin des espaces plus grands pour se réunir. On a besoin qu'on nous aide à louer des espaces. Aussi, Taller Abierto nous aide et nous prête leurs locaux et nous donnons à manger, à boire et des autres matériels pour organiser nos activités. À Buenaventura, il y a peu des entités qui soutiennent les groupes de femmes qui défendent les droits humains. Très peu, oui. Et pour qu'une entreprise accepte de nous aider, il faut déjà avoir un parcours et être connu, parce que nous manquons de reconnaissance. Nos groupes ne sont pas enregistrés à la mairie ou à la chambre de commerce. Et pourtant, nous allons à des événements, à des formations nationales et internationales auxquelles des personnes du secrétariat des femmes sont venues. Mais notre groupe n'est toujours pas inscrit dans les registres. Nous participons, nous sommes visibles sur les moments, mais nous sommes invisibles quand il s'agit d'aller dans des autres municipalités, dans des autres villes, pour représenter notre communauté.
Pour finir, et comme promis dans le premier épisode, je voudrais vous parler de la mobilisation qui a eu lieu à Buenaventura en mai 2021 lors de la grève nationale. Pour rappel, durant 3 mois, l'ensemble des citoyens et citoyennes du pays ont manifesté contre le gouvernement à propos d'un projet de réforme fiscale. Le gouvernement a réprimé ces protestations en réagissant par une attaque brutale contre l'état de droit et la liberté de manifester. De manière générale, les Bonaventurins et Bonaventurines ne sont pas entrés en grève, comme à Cali. Ils n'ont pas cessé leur activité pour ne pas paralyser entièrement la Colombie. Pourtant, des manifestations ont eu lieu pour dénoncer les limites de l'accès à l'eau. Elles ont donc été principalement menées par les jeunes et les populations autochtones. Esther m'a expliqué comment ça s'est passé.
Des actions sont menées sur chaque point, chaque problème. Par exemple, pour les problèmes de l'eau, des actions ont été menées dans un quartier. On a analysé les causes et on a fait nos revendications dans un document qu'on a transmis au gouvernement et qui a été ensuite socialisé. Les gens ont organisé des mobilisations à travers les sports, notamment les sports typiques de la région, mais aussi la danse traditionnelle et la musique. Les jeunes sont venus jouer et chanter des chansons pour exprimer leur rejet et le fait que Buenaventura soit totalement laissé à l'abandon. Il y a une grève nationale. Cali était l'une des villes où le plus de personnes se sont mobilisées. Ils ont fait un appel à Buenaventura. Ils nous ont dit « Hey Buenaventura, si tu t'arrêtes, la Colombie s'arrête !» Mais Cali et des autres villes se sont arrêtées. Et le gouvernement n'a rien fait. Il a continué dans l'indifférence. Il a envoyé les CRS qui ont généré beaucoup d'actes de violence, tué les jeunes et ça continue. Buenaventura ne s'est pas arrêté comme le gouvernement avait pensé. Les actions qui ont été faites ici en mai 2021 ont été menées par les jeunes, plus que les adultes. C'est les jeunes qui ont décidé de sortir dans la rue. Il y a un groupe de jeunes qu'on accompagne dans les projets qui ont participé à la grève et à ces processus. Ce sont les jeunes de Vista Hermosa. Nous sommes sortis avec eux et nous avons participé à une marche qui est partie du centre jusqu'à l'entrée de Bajo Calima, qui est l'autre port. Et c'est là qu'on a comptabilisé le nombre de participants. Mais ici à Buenaventura, cette mobilisation a été critiquée, car il n'a pas été bien planifié. En revanche, la communauté autochtone a été très active dans la grève. Ils ont entré dans la mairie et plusieurs jeunes ont été blessés. On peut vraiment le dire qu'ici à Buenaventura, les personnes qui ont été les plus actives dans la mobilisation et la grève ont été les communautés autochtones. On a vu que dans la zone urbaine, beaucoup de conflits ont été générés, parce qu'il y avait une partie de la population qui ne soutenait pas la grève. Et donc les gangs et groupes armés ont nous profité de voler et de débaliser les gens pour générer plus de peur. Et donc les gens ne pouvaient plus sortir. Et cela rend difficile l'organisation de la grève dans la rue.
Ces implications ont pu être possibles grâce au travail en amont de l'équipe de Taller Abierto, dans laquelle Lina est travailleuse sociale, et donc elle m'a expliqué.
L'idée, c'est de travailler avec les communautés sur ce qui se passe dans leur territoire et leur permettre de générer ces dynamiques de mobilisation. Nous avons fait cet exercice avec elles et les jeunes ont commencé à regarder les nouvelles et ils m'ont dit « Nous aimerons bien participer à la marche ici à Buenaventura ». Donc ils ont participé à la marche et c'était une participation active. Ils avaient conscience de son jeu car le travail en amont avait été fait. Les jeunes ont pris conscience de leur rôle en tant que jeunes, qu'ils avaient leurs droits et la capacité à se mobiliser, qu'ils pouvaient élever la voix parce qu'il y a des décrets et des changements au niveau du gouvernement qui nous affectent tous et toutes.
C'est toujours très intéressant de discuter avec des personnes locales de leur implication, sans aucun filtre ou déformation par les médias, mais il m'a paru pertinent tout de même d'interviewer Daniel Jiménez, responsable plaidoyer à la Rede ULAT, afin d'avoir un aperçu politique, si l'on peut dire, de la situation en Colombie et des actions qui sont menées, ou qui peuvent l'être, dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des Colombiens et Colombiennes. C'est un réseau de 40 organisations européennes qui promeut des politiques participatives en faveur des droits humains, de l'égalité des sexes, de la démocratisation et d'un modèle de société juste, inclusif et durable en Amérique latine. Ensemble, ses membres dénoncent et rendent visibles des violations des droits humains en Amérique latine et font du plaidoyer devant les instances de l'Union européenne. Il nous présentera le réseau EULAT et nous parlera de l'importance de son travail sur place, en Colombie, notamment pour les défenseurs et les défenseuses des droits humains. J'ai également interviewé Carlos Duran, anthropologue colombien, qui est aussi consultant et chercheur spécialisé dans les thématiques de femmes et de migration. Commençons par Daniel Jiménez de la Red EULAT.
Salut, je voudrais d'abord remercier de m'avoir invité parce que je trouve ce podcast qui est une idée vraiment intéressante. La question de la due diligence, diligence raisonnable peut-être, ne pourrait être plus importante à l'ère actuelle. Actuellement, ce mois de février, le Parlement européen va débattre du nouveau projet de la loi sur la diligence raisonnable avec lequel nous espérons qu'il sera mis fin à l'impunité avec laquelle agissent certaines entreprises européennes, en donnant aux victimes l'accès à la justice, en assurant la réparation des dommages et surtout pour garantir que les populations soient consultées sur les impacts sur le territoire qui les affecte. C'est vraiment une loi importante qui pourrait nous aider à répondre à de nombreux problèmes. Et pour cela, nous devons proposer une position commune. Les organisations qui travaillent ici en Europe, en Colombie et les Colombiens. Les problèmes que nous ressentons souvent avec les transformations sociales et politiques est qu'elles vont toujours peut-être trop lentement. Et en chemin, il y a la souffrance de nombreuses personnes qui se battent pour éviter la destruction de l'environnement, pour les droits à une vie digne, etc. Des droits déjà reconnus, des accords internationaux que le gouvernement colombien a ratifiés et qui ne sont toujours pas garantis. Il est évident qu'il y a là une responsabilité qui n'est pas assumée par les autorités nationales, mais les entreprises européennes et dont les gouvernements de leur pays ont aussi une responsabilité à cet égard. Et c'est là que notre travail en tant que réseau a une plus grande pertinence dans les actions de plaidoyer que nous menons pour mettre fin à l'impunité. Depuis le réseau, nous nous battons pour porter la voix de l'Amérique latine dans les espaces bruxellois où les décisions sont prises afin que ce soit les défenseurs qui agissent sur le terrain sans intermédiaire comment atteindre leurs objectifs. En ce sens, il est primordial de comprendre que les problèmes de Buenaventura ne sont pas isolés. La dimension régionale latino-américaine est non seulement importante pour parvenir à une meilleure compréhension des problèmes, mais aussi pour s'appuyer sur des autres collègues mexicains, péruviens, honduriens, qui ont connu des luttes similaires. Après, je voudrais aussi continuer avec une question que je trouve très importante. Depuis le réseau EULAT, nous avons la conviction et l'engagement de travailler pour la protection des défenseurs, car ils sont le moteur du changement pour une société plus juste et moins inégale. Le nombre d'assassinats de dirigeants sociaux jusqu'au présent, cette année, confirme la Colombie comme le pire pays au monde à défendre les droits humains. Mon engagement, notre engagement, sera avec la protection des défenseurs. Je sais que ce n'est pas grand-chose, je sais qu'il y a des moments plus difficiles, vraiment difficiles, mais croyez-moi quand je vous dis, vous n'êtes pas seul.
Merci beaucoup Daniel pour ces éclaircissements sur le rôle de la Rede ULAT et plus précisément l'importance de s'unir pour revendiquer des droits et dénoncer leurs violations. Nous pouvons maintenant écouter Carlos Duran, l'anthropologue colombien, pour savoir ce qu'il a à nous dire au sujet de la mobilisation des acteurs locaux en Colombie et l'investissement des organismes et des organisations de la société civile dans cette tâche.
Bonjour, merci pour cet entretien. Alors, je suis Carlos Durand, je suis anthropologue et politologue. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans les gouvernements de la Colombie et aussi avec la coopération internationale, les agences des Nations Unies, pour toute la construction de la politique publique pour la réparation et l'assistance aux victimes du conflit armé et des déplacés. Et comme ça, j'ai travaillé avec les organisations indigènes et afro-colombiennes pour la construction de la politique spécifique et l'approximation différentielle de la politique publique. Avec ces organisations, j'étais partie du procès de consultation avec ces organisations et en même temps, après, j'ai travaillé avec la coopération internationale dans les projets de renforcement institutionnel et communautaire aux organisations indigènes et afro-colombiennes et aussi aux organisations de femmes à la Colombie et plutôt à Buenaventura lorsque l'histoire de la guerre à Buenaventura, c'est l'un des cas les plus dramatiques. Et en même temps, j'étais parti du procès de renforcement et d'engagement politique avec les organisations des communautés noires en Colombie.
C'est un beau parcours, vous êtes spécialisé sur des thématiques qui nous parlent beaucoup aussi chez Agir Ensemble. Est-ce que vous pourriez me parler du poids des institutions et des organisations à Buenaventura et en Colombie qui se consacrent à la défense des droits? Et notamment, est-ce que la signature des accords de paix a opéré un renforcement de ces institutions et organisations?
Oui, je crois que le procès de paix a été le déclencheur des procès qui existaient après, mais c'était l'accord de paix qui a créé la possibilité de travailler ensemble, par exemple, entre indigènes et afro-colombiennes, de construire des processus plus participatifs et les mouvements sociaux et la possibilité d'avoir une maire de Buenaventura qui est partie du processus de Paro de Buenaventura de 2017 et qui est partie du processus des communautés noires. Je crois que les organisations ont été renforcées et ont une possibilité de faire plus de l'incidence aux décisions du gouvernement. Mais en même temps, c'est difficile parce que la précarité institutionnelle d'une municipalité comme Buenaventura et la corruption en même temps et la violence, c'est une chose qu'à Buenaventura a fait parce que les leaders ont été menacés, ont été tués.
Ces leaders et ces organisations ont-ils recours à la mobilisation collective pour faire entendre leur voix?
Oui, les procès de paix et la possibilité d'avoir des propositions qui ont été faites à la table de négociation de La Habana en 2015-2016, c'était la possibilité de créer des espaces interethniques, par exemple au nord de Cauca, à Buenaventura, les indigènes, les afro-colombiennes ont créé une agenda commune. Ça a été la possibilité de faire l'incidence dans les chapitres ethniques de l'accord de paix, mais en même temps, à niveau local, ça permettait de construire des agendas pour la construction des plans de développement. Alors, les indigènes et les afro-colombiens ont participé ensemble et ont créé cet agenda. Par exemple, dans les PARO de 2017, c'était la possibilité de créer un mouvement social qui consolide toutes les différentes positions des paysans, des femmes, des indigènes, des afro-colombiens. Si on voit le processus de réparation des communautés de Naya, que c'est un territoire collectif à Buenaventura, ils ont demandé que même s'il y a la loi spécifique pour les indigènes, la loi spécifique pour la réparation des afro-colombiennes, ils ont demandé un processus collectif parce qu'il y avait aussi des paysans, des indigènes, chacun avec ses spécificités culturelles. Mais je crois que c'est surtout la participation et la protection des leaders à Buenaventura et la conscience que même si Buenaventura est l'une des villes en Colombie qui a un budget le plus grand parce que c'est les principales portes maritime de Colombie, mais en même temps, l'exclusion et la violence continuent parce que c'est la dynamique des économies et d'enclavages extractivistes qui ne permettent pas que les habitants aient la possibilité d'avoir une meilleure vie. Et c'est le racisme structurel en même temps qu'on peut voir. Et je crois que ça va prendre plusieurs années.
Merci beaucoup, Carlos, pour ce témoignage tiré d'une riche expérience professionnelle et personnelle. Les espaces interethniques sont d'une importance cruciale pour que les voix des populations autochtones et afro-colombiennes soient entendues et on l'a bien compris. Je voudrais terminer cet épisode en mentionnant le lien très fort entre l'éducation des jeunes et les espoirs d'un avenir meilleur pour la Colombie et pas seulement pour Buenaventura. Amparo me l'a si bien expliqué que je vais lui laisser la parole.
Nous, les jeunes en Colombie, nous sommes majoritaires et donc si nous nous unissons, nous réussirons, je pense. Nous devons nous allier avec tout le monde et sensibiliser les personnes qui ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas l'accès à l'éducation ou à l'information. Moi, j'ai eu la chance d'être éduquée, même si par des moyens durs, parce que la vérité, c'est qu'au milieu de tant de difficultés, il n'est pas facile de dire « je veux étudier » ou « je vais faire ceci ». Mais nous y sommes parvenus. Donc je pense que si nous avons une Colombie éduquée, nous serons une garantie pour tout le monde, pour que personne ne vienne violer les droits des autres et pour que tout le monde ait les droits à l'eau, l'éducation et toutes ces choses.
Merci à Amparo, Alejandro, Esther, Janet, Maria Karina, Lina, Washington, Daniel et Carlos pour leur coopération et la clarté de leurs propos. J'espère que cet épisode ainsi que tous les précédents vous ont plu. Je vous remercie pour votre fidélité et j'espère que le podcast Les Voix de Buenaventura vous a enrichi de connaissances et que j'ai réussi à vous donner envie d'en savoir plus sur cette ville aux multiples visages. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de suivre Agir Ensemble sur tous ces réseaux sociaux afin d'être informé de nos actions. Les Voix de Buenaventura est un podcast réalisé et produit par l'équipe d'Agir Ensemble avec le soutien de l'Agence française de développement, Terre des Hommes France, Suisse et Allemagne, de la Ville et la Métropole de Lyon, ainsi que de la Fondation Pro Femmes et du réseau France-Colombie Solidarité.